never die.
Nerf this.
Salut tout le monde, bienvenue dans Nerf This Podcast épisode 51. Je suis Altiron et je suis cette semaine avec les meilleurs des meilleurs et il n'y aura pas de crise de jalousie de l'un ou de l'autre puisqu'ils sont là tous les deux. C'est Stuck Logo et Shaba. Salut messieurs, salut Logo, tiens.
Salut, ça roule ?
Ça roule, Raoul, bonne blague, merci à tous. Allez, c'est la fin de ce podcast.
je peux démissionner ou pas ?
C'est déjà
non.
Trop quoi.
Tu ne peux pas démissionner puisque tu es évidemment bénévole. Et on est avec Shaba Loutre, salut Shaba.
Salut, ça commence beaucoup trop sur les chapeaux de roue ce podcast.
Ouais, ça promet du lourd. Évidemment, podcast preview des playoffs de Stage 2. On va revenir un tout petit peu sur ce qui s'est fait dans cette dernière semaine de Stage 2 avec les chocs qui complètent le stage parfait, le golden stage comme ils aiment à le dire. La Chine qui place deux pions en playoff tout de même. Et on reviendra un peu sur les équipes qui nous ont plu et les équipes qui nous ont déçus de manière générale dans ce Stage 2. Puis le flop top, vos questions, la grosse preview des playoffs avec un petit retour sur les braquettes de nos chroniqueurs. Et voilà, ce sera déjà pas mal messieurs, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oh, c'est consistant, bon menu.
Ouais, ça devrait aller.
Ouais, ça donne envie. Oh là là, l'enthousiasme, le dynamisme de Logo, de bon matin. Oui, évidemment, vous avez ce podcast mercredi matin, puisqu'on en profite, c'est férié. On prend un peu plus de temps pour vous faire un podcast de qualité, mais ça, j'ai envie de dire ça à chaque fois. Voilà, on va pouvoir y aller avant que cette intro ne dure plus longtemps. Messieurs, je lance le générique. C'est parti pour Nerf This Podcast. Alors, on l'a dit en ouverture, on va d'abord revenir un tout petit peu sur ce qui s'est fait dans cette fin de stage et on est obligé de parler de la performance exceptionnelle, le mot n'est pas galvaudé dans la mesure où c'est la première fois qu'une équipe finit sans concéder la moindre carte sur un stage. On parle bien sûr des San Francisco Shock qui ont fini à 28-0. J'avais essayé de monter une blague avec Golden State Shock comme les Golden State Warriors en NBA, mais j'ai pas réussi, donc voilà, je suis obligé de faire comme ça. Le fait est quand même que ces San Francisco Shock, ils ont réussi à mettre 4-0 aux 7 équipes qu'ils ont joué, enfin aux 5 équipes en fait, puisqu'ils ont joué deux fois les Dragons, si je dis plus de bêtises. Non, quelle équipe ils ont joué deux fois?
Guangzhou
Charge, exactement. Tous les matchs n'ont pas été aussi faciles. Il y a eu des moments où il a fallu préserver finalement cette invincibilité sur les cartes. Ils ont réussi à le faire. Est-ce que c'est ça aujourd'hui leur grande force au San Francisco Shock ? C'est la capacité à être clutch dans les moments où... Alors ça compte. On parle encore de juste faire 28-0, ce qui est joli sur le papier, mais une fois en playoff, ça vaudra plus rien. Est-ce que c'est ça leur grande force aujourd'hui, messieurs ? Tiens, Logo, je t'en prie, recommence, puisque tu nous as manqué la semaine dernière, alors on est content de te retrouver.
C'est gentil. Moi, clairement, c'est ce qui m'avait le plus marqué, notamment dans le match contre les fusions, qui étaient peut-être sur le papier un des matchs les plus difficiles qu'ils ont eu. Encore une fois, qu'ils gagnent les 7 matchs, vu le calendrier, c'est pas spécialement étonnant, c'est qu'ils les gagnent à chaque fois 4-0. Et donc oui, sur ces matchs-là, à chaque fois, ce qu'on voit, c'est que ils font des erreurs, ils sont pas forcément ultra dominants dans tous les teamfights, ce qui est quand même très difficile. Mais qu'à chaque fois, quand l'overtime arrive, quand c'est le moment où il faut être, où c'est la dernière, il faut gagner à chaque fois, sinon on perd le point. Même quand les ultis, ils sont en désavantage, c'est là où à chaque fois, ils ont une gestion parfaite. Et en fait, on dit clutch, mais c'est surtout, je pense, un sang-froid qui fait que les mecs savent exactement ce qu'il faut faire, comment faut le faire. Ils sont au point et derrière, quand ils font délivrer, ils sont vraiment parfaits, quoi. Il y a très très peu d'erreurs et déjà qu'ils ont un effectif rempli de talent derrière, s'ils sont capables juste de jouer comme il faut quand il le faut, ça devient très difficile et personne n'a réussi à prendre de cartes pour ça, à mon avis.
On est d'accord. Et effectivement, c'est impressionnant parce que moi je trouve aussi que ça traduit un état d'esprit mental hyper fort parce que tu te bats pour un truc qui finalement est juste beau sur le papier mais tu mets tout ce que tu peux et même tout ce que tu peux parfois pas pour aller chercher ce truc là au bout et c'est là où on en reparlera dans la deuxième partie aussi mais ils sont extrêmement attendus au tournant. Shaba, dans cette équipe, par rapport au stage 1, il y a surtout un 6 qui s'est vraiment arrêté
ouais.
Et qui peut-être explique aussi cette énorme performance.
Alors juste avant, moi, j'ai un parallèle que je veux faire entre les Chocs et une autre équipe. C'est que au stage 1, les Chocs que tout le monde attendait étaient un petit peu coussi coussa. Ça dépendait des matchs. On changeait un peu des joueurs et on tombe contre les Vancouver Titans où le match est serré. Mais à chaque fois qu'il fallait appuyer un peu plus sur l'accélérateur pour être sûr de l'emporter, chaque fois Vancouver l'avait fait. Leurs playoffs ont été un déclic pour que eux se retrouvent dans cette position-là. Ça, c'est tout à leur honneur. Mm. Et puis, pour ce fameux 6, ouais, en fait, hein, parce que premier stage, on rappelle, hein, San Francisco Shock, qui a un roster bourré de joueurs, bourré de talents à tous les étages. Mais là, on a vraiment bien recadré la chose. Nevix ne rentre plus. En off-tank, c'est Choyubin et personne d'autre. Et vu la performance qui nous sert contre les fusions et surtout contre les dragons, cette semaine, c'est pas négociable, en fait. C'est lui qui doit être sur le poste d'off-tank. Rascal, qui était de temps en temps interverti avec Architect, il a prouvé que c'était lui le taulier du poste. Et en plus, de la brique, il y a le fameux Baptiste dont on avait parlé dans un précédent podcast. Et puis, pour tous ces DPS, ce pléthore de DPS, qui va jouer quoi? De toute façon, dès le début, Sinatra, il a dit le patron, il est ici. Voilà. Sinatra est indéboulonnable. Pour les supports, c'est vrai qu'au début, Sleepy a joué avant que Violet se mette vraiment en jambes. Puis, le résultat, c'est que Sleepy, maintenant, il est à Washington. Donc, ouais. Je pense vraiment qu'ils ont cadré ce qu'il fallait cadrer. Et contrairement où on avait vu Vancouver au stage 1 terminer le stage sur, on va dire, des fins de partie un petit peu YOLO, un petit peu troll, comme ils avaient fait contre Valiant sur Rialto, tout ça, San Francisco, il n'y a pas ce genre de fioriture. C'est genre le 6 principal et on le garde et on build up dessus, en fait. Tous les matchs, ils le jouent avec le même 6 pour justement encore plus entériner cette confiance, cette synergie qu'ils ont. Et franchement, c'est sans doute, avec les Titans, c'est le plus beau collectif, le plus beau 6 en termes d'esprit collectif de cette ligue, je pense.
Ce qui est assez, et vous me direz si vous êtes d'accord, mais je trouve paradoxal dans la mesure où c'est pas forcément celui qui avait les plus grosses individualités avant le début même de ce stage, en fait. Quand tu penses à des superstars, la preuve, de mémoire, il n'y en a aucun qui est qualifié. Alors, les All-Star Games, on est d'accord que ça vaut ce que ça vaut en termes de représentation, parce que c'est surtout le vote du public et que, manifestement, le public n'a pas beaucoup regardé l'Overwatch League. Mais voilà, quand tu penses à des superstars de la ligue, ces mecs-là ensemble en sont, mais individuellement, on n'aurait pas forcément, on les aurait pas forcément choisis. Donc c'est ça aussi, leur grande force, c'est d'avoir réussi à tous ensemble faire cette équipe qui est aujourd'hui une des plus impressionnantes. Logo, je te pose une question piège, mais c'est pour qu'on puisse parler un peu de tout le monde aussi. Aujourd'hui, toi, tu dirais que qui est le meilleur joueur de cet effectif?
Je dirais que c'est Sinatra.
Très française, oui. Je m'en excuse.
J'aurais dit pareil.
Je dirais que c'est Sinatra quand même, parce que ça reste dans les. Et ils jouent toujours très goat. Ils sont toujours. C'est quelque chose qui marche avec eux, et donc du coup, forcément, ils l'exploitent. Et Sinatra, c'est quand même, je pense, la meilleure Zarya de la ligue à l'heure actuelle.
Yes.
Que ce soit en termes de dégâts, de sa capacité à se charger à une vitesse vraiment très impressionnante, son positionnement, son tracking, il y a que l'usage des ultis où au début c'était un petit peu sloppy, puis au final après il s'est vachement repris. Clairement, pour moi, c'est le hard carry de cette équipe. Alors certes, tout le monde est à sa part dans le succès de San Francisco. Mais après, derrière, quand si t'as pas Sinatra, mais que t'as plein de joueurs qui sont très utiles, mais t'as pas le Daga, ça marchera pas. Donc, à mon avis, c'est lui qui est considéré comme la grosse All-Star de cette équipe. En plus, d'accord. Au niveau du salaire, c'est quand même l'année dernière, quand il avait signé pour, je crois que c'était 150 000 dollars les deux saisons, ça avait quand même fait beaucoup parler parce qu'il était très jeune, il avait pas débuté la saison. C'était un potentiel, on le savait. Aujourd'hui, c'est un potentiel qui est affirmé. Et nous, on avait un peu peur que ça fasse un flop. On l'avait beaucoup imaginé comme cette équipe comme étant un flop, mais
On l'avait mis très basse, hein. Pour être honnête, je crois même qu'on l'avait mis 15e. Ouais, exactement. On n'a pas cru. Non, mais voilà. Après, c'était un effectif jeune qui devait confirmer. Ils l'ont confirmé hyper bien. Ça aurait pu pas marcher. Bon, tant mieux pour eux, hein.
Non, mais sur le papier, c'était quand même, beaucoup disaient que c'était une grosse équipe. Après, nous, on a imaginé que même si c'était une grosse équipe qui pouvait chuter, que ça, nous, on l'avait imaginé comme une déception, en fait.
C'est ça.
Mais dans l'ensemble, oui, c'est quand même très, très impressionnant. Il y a quand même beaucoup de très forte individualité dans cet effectif.
On est d'accord. Question bateau pour terminer. Est-ce qu'une équipe sera capable de refaire une telle performance, vous pensez, à l'avenir?
Bah alors, ça dépend. Ça dépend comment le...
Ça dépend de la méta.
Et le calendrier, surtout.
Ouais, aussi, oui.
Mais le calendrier de San Francisco sur ce stage, il est pas si difficile. Enfin,
c'est pas trop normal, difficile. En fait.
Ouais, il y a deux équipes en playoff.
Ouais, mais c'est pas les plus grosses équipes, hein. Sincèrement, moi je trouve que.
Il n'y a pas eu New York, il n'y a pas eu Vancouver.
C'est très impressionnant de ne pas perdre une carte, mais est-ce que, je me pose la question, est-ce que Vancouver aurait été capable de faire la même chose avec le même calendrier? Moi j'ai le sentiment que oui.
Vancouver c'est différent parce que Vancouver, on dit toujours un peu la même chose depuis le début du stage 1, je trouve, mais il y a ce côté un peu foufou où au pire, s'ils gagnent 3-0, ils s'en moquent. En tout cas, c'est l'impression qu'ils donnent.
Peut-être c'est que le map average, c'est pas leur, on va dire que c'est pas leur souci principal. En fait, s'ils ont envie de s'amuser, bah ils s'amusent quoi, s'ils gagnent 3-0 quoi.
Ouais. Alors peut-être que c'est une impression qu'ils donnent. Peut-être que effectivement,
oui, après, voilà,
les équipes
aussi,
se réveillent. On n'est pas dans leur tête, mais voilà. Le fait est que quand ils sont largement devant, tu sens qu'ils se permettent un peu plus de liberté. Là où San Francisco, et c'est peut-être un peu l'expérience de la saison 1 aussi. C'est que toutes les maps comptent et qu'en fin de saison, quand il faudra regarder les maps average, ils seront contents d'être dans le vachement positif et pas au coude à coude avec une autre équipe pour se qualifier. Après, c'est parce que leur bilan plaidera pour eux. Il y a de toute façon pas trop de problèmes.
Bah, il me semble qu'ils avaient pas raté les playoffs du tout dernier stage l'année dernière pour une poignée de maps, San Francisco aussi.
Ouais, c'est ça, ouais. Mais après, bon, si t'as les victoires, les maps, c'est moins important, quoi.
C'est le seeding.
On va dire que la manière dont joue Vancouver aujourd'hui, je la trouve très intéressante parce que certes, ils vont dropper des cartes, mais on sent que les gars s'amusent. Et justement, tu préserves une partie de fatigue mentale.
T'envoies un message aussi.
T'envoies un message. Mais le fait est que si les mecs s'amusent sur scène et qu'ils sont pas que en tryhard et qu'à un moment donné ils arrivent à bien vivre dans le groupe, tout en se permettant de lâcher des cartes, mais derrière, d'être capable d'être bien focus quand il faut l'être en playoff, à mon avis, ils sont plus vainqueurs, hein. Ils s'en foutent les chocs, ils s'en foutent d'être à 28-0, en fait, hein. Ce qu'ils veulent, c'est gagner.
Ouais. Et puis, l'histoire leur donne raison puisqu'ils sont champions du stage 1, en allant jusqu'au bout, face à San Francisco, mais voilà. Donc, bon, je suis d'accord avec vous que effectivement le planning a peut-être aidé. Ça reste une sacrée performance de leur part quand même.
Absolument.
Et à mettre en perspective tout de même, parce que quand l'Overwatch League te dit waouh, c'est la première fois, blabla, première saison, ils jouaient 10 matchs par stage, donc ça voulait dire 40 cartes gagnées d'affilée. C'est pas la même limonade.
Ouais, surtout qu'il y avait que 12 équipes l'année dernière, donc au niveau des calendriers, t'avais forcément un calendrier plus relevé sur 10 et plus intense sur 10 journées que là sur 7 journées avec des doublons d'équipes que tu peux battre facilement.
Enfin, on est d'accord. Oui, alors voilà pour les San Francisco Shock qui nous laissent sur ce beau 28-0 tout de même. On parle un tout petit peu aussi des équipes chinoises qui enfin atteignent les playoffs. Je dis des équipes chinoises puisque ce stage-ci, il y a les Dragons et les Sparks. On va commencer par les Dragons puisque c'est quand même la progression la plus visible depuis le stage 1, depuis la saison 1, et c'est pas dur, dans la mesure où voilà, non seulement ils ont gagné une carte, ce qui était un premier objectif dans ce stage 1 là, au stage précédent, et ce stage-ci, ils se qualifient pour les playoffs, certes, à la ric-rac à la 8e place. Notez tout de même qu'il n'y a pas de... Il y a qu'une seule équipe qualifiée en 4-3 et qu'il n'y a qu'une seule équipe en 4-3 surtout. Le haut du tableau, c'est un peu plus resserré et le bas du tableau un peu descendu par rapport au stage 1 où il y avait plein d'équipes en 4-3. Là, il n'y en a qu'une seule et ça s'équilibre un peu. C'est Shanghai Dragons. C'est mérité, c'est... Que, alors, il n'y a pas forcément de question de mérite. Oui, non, mais il n'y a pas forcément de question de mérite. Mais disons que par rapport à toute la progression qu'ils ont apportée et finalement un peu toute la sympathie qu'ils se sont attirés de tous les gens qui étaient tristes de les voir aussi bas, ça fait un petit. Moi, je trouve que ça fait plaisir, tout simplement, de voir cette équipe des Dragons enfin réussir à prouver qu'ils ne sont pas aussi mauvais que leur saison 1 ne le prétendait. En tout cas, pas avec ces nouveaux joueurs. Shabba, tu es d'accord avec moi? Alors, vas-y, appuie-moi.
Ah. Complètement. Non, moi je suis très très content parce que le roster de base, quand ils ont recruté ce roster là pour cette année, le roster me plaisait. J'aimais bien les joueurs qui, et en plus, il y a Gamsu qui est arrivé en dernière minute, qui leur a fait énormément de bien.
Yes.
Au poste de main tank, c'était quand même plus que léger, vu qu'il y avait eu un mental breakdown de leur nouveau tank dès le début.
C'était l'ancien d'ailleurs.
Oui, c'était l'ancien même, c'était Fearless.
Fearless, je cherchais.
Mais du coup, les Dragons, au fur et à mesure, en fait, ils sont créés leur petit style de jeu. C'est pas une équipe qui va forcer des compos archi DPS tout le temps comme le font les Hunters par exemple. Mais ils ont un style qui leur est propre. Je trouve qu'ils ont gagné en abnégation de manière générale. L'année dernière, on les sentait vraiment. Quand ils commençaient à prendre 2-0 à la mi-temps, tu savais que sur les deux maps d'après, ils allaient juste plonger, quoi. Là, cette année, on sent qu'il y a des joueurs qui ont apporté plus de solidité mentale, sans doute qu'au niveau du coaching staff, ça évolue aussi. Je trouve que toute l'organisation, joueurs et staff compris, a montré une très très belle progression. Ça fait vraiment plaisir de voir une équipe que tout le monde disait perdue pour Overwatch, en fait, hein, un peu arriver en playoff. Puis franchement, c'est sûr qu'ils ont peut-être pas eu le calendrier le plus compliqué. On va y revenir à ces histoires de calendrier, hein. Ça rappelle un petit peu Toronto au stage précédent, qui a pas eu le plus compliqué les plus compliqués des affrontements. Mais je trouve que quand ça joue, quand la machine se met en place du côté des Dragons, ça joue bien, en fait. Ça joue bien. Et puis même, hein, quand dans la défaite contre San Francisco cette semaine, je trouvais qu'ils étaient quand même vachement accrocheurs avec cette équipe de la baie, contre cette équipe de la baie. Donc franchement, moi c'est chapeau bas, et j'espère que ça va continuer comme ça, parce que c'est la progression est vraiment belle à voir.
Juste pour revenir sur le calendrier, ils jouent quand même San Francisco et New York et Gladiators sur ce stage. C'est les trois matchs qu'ils perdent.
C'est vrai que c'était pas non plus le meilleur des calendriers. C'était pas autant que Toronto Stage 1, mais à culpa.
Comme ça, ils jouent plus New York, ça c'est sûr, vu qu'ils sont pas dans leur division, dans leur conférence. Et Gladiators et Shock, ils les rejoueront. À moins qu'ils les jouent au Stage 1, mais je ne sais plus. Toujours est-il que, c'est un calendrier moyen. Logo, toi, pareil, content, pas content, t'en fous.
Alors, je suis content de voir la franchise des Dragons. Ne plus être la risée de la ligue, parce que c'était amusant pour personne, en fait, hein.
Oui, d'accord.
Mais par contre, moi, je serais un peu moins quand même enthousiaste, dans le sens où c'est pas le même coaching staff, c'est pas les mêmes joueurs, mis à part le maillot et le logo qui ont pas changé, tout le reste a changé.
Et Guigouri.
Et Guigouri qui joue plus. Donc, je pondérerais quand même l'enthousiasme général en disant, c'est quand même loin d'être la même équipe qu'avant. Et il faut pas bouder son plaisir, et ils sont chouettes à avoir joué. Après, déjà, dans un premier temps, l'équipe des Shanghai Dragons, qui était à 28-0 l'année dernière, n'a pas réussi à se qualifier pour les playoffs, et c'est pas elle qui s'est relevée, quoi. Après, dans le jeu, moi, j'aime bien, ils ont un style de jeu, j'aime bien les équipes qui ont des styles affirmés. Eux, c'est clair, ils en ont un, c'est Ding sur son bras. Et du coup, il vit une espèce de goat sans brigitte. Sans diva, si je me souviens bien. C'est intéressant. Après, je trouve Ding d'une manière générale très très fort. Après, ils ont un gros défaut, je trouve, pour ce style de jeu, c'est que généralement Ding, justement, l'alpha et l'oméga de cette compo, c'est vraiment les IEM, et il faut que les IEM soient bien placés pour pouvoir derrière être capable d'enchaîner les kills sur le team fight et de faire des gros wipes. Généralement, il arrive bien à choper 4-5 personnes dans ces IEM.
Dans le radius, ouais.
Mais le problème, c'est que la personne qui manque à chaque fois, ça va être le Lucio qui arrive à se planquer, et ou le Zenyatta, et qui a son ulti. Et du coup, en fait, je trouve que dans l'ensemble, il y a quand même des grosses erreurs par rapport à ça. C'est compliqué, hein, parce que tu peux pas non plus attendre trop longtemps. C'est un outil qui charge vite, donc t'as envie de l'utiliser vite. Sinon, si tu fais des trop gros build-up, tu risques de te faire prendre en vitesse. Mais c'est un peu un risque. C'est un jeu à risque, je trouve, et il y a encore de l'amélioration par rapport à ça. Donc c'est pour ça, je dirais quand même que certes, ils ont fait ce qu'il faut faire pour se qualifier en playoff. En fait, tu gagnes contre les petites équipes. Si tu gagnes contre les équipes qui sont moyennes ou mauvaises, du coup, à un moment donné, tu peux te retrouver avec un slot en playoff. Et ça, ils l'ont fait bien, et ils méritent leur place. Après, ils sont loin d'être une top team encore, hein, je pense. Il faut qu'ils profitent de ça, il faut qu'ils s'améliorent, et il faut qu'ils espèrent aussi que la méta aille dans leur sens. Parce que si après, il y a beaucoup plus de sombras, avec Ding, ils ont quand même un élément très intéressant à ce niveau-là.
On est d'accord. C'est une équipe qui, à ce rythme-là, peut viser des play-ins. En fin de saison assez facilement. Après, il faudra, faudra comme toutes ces équipes-là de milieu de tableau réussir à se battre pour aller taper les plus gros. Et là, ce sera une autre paire de manches. L'autre équipe chinoise qui du coup vole aux Dragons l'honneur d'être la première équipe qualifiée en play-off. Enfin, vole, partage.
Oui, non, parce que les Dragons officiellement étaient les premiers.
Oui. Alors chronologiquement, ils étaient les premiers. Je suis d'accord avec toi dans la mesure où la veille, avec la victoire des Valiant, vu que les deux dernières équipes qualifiables s'affrontaient l'une l'autre, les deux pouvaient pas y aller et du coup laisser le spot assuré aux Dragons. Ces deux dernières équipes, on en parle tout de suite. Ce sont les Hangzhou Spark et les Seoul Dynasty qui s'affrontaient pour une espèce de huitième de finale du coup, puisque c'était vraiment ça. L'équipe qui gagnait allait en playoff et l'équipe qui perdait n'y allait pas. Séoul l'emporte sur la première map sur Lijiang Tower 2-0. Tu t'es dit bon bah tant pis, les Sparks c'est bien, ils auront tenté. Et derrière ils mettent 3 maps d'affilée avec un Guchué des grands jours. Hangzhou Spark qui donc se qualifie pour les playoffs. Et Hangzhou Spark qui confirme un peu, alors pareil, le calendrier, blabla, tout ce que vous voulez, mais qui confirme quand même qu'ils ont vachement progressé et qu'ils sont un peu meilleurs que ce qu'on a vu au Stage 1. Et c'était un peu cette histoire qu'on avait, on en a parlé la semaine dernière avec Shabba, de dire c'est bizarre parce que cette équipe-là, en scrim, après les premiers matchs du Stage 1, tout le monde les vendait comme une équipe incroyable, super forte et tout. Stage 1, on n'a rien vu. Et là, ils arrivent quand même à gagner 5 matchs. Ils font en fait je pense que le point bascule important pour eux, c'est le week-end à Dallas quand ils battent coup sur coup Chengdu et Paris.
Oh. C'est même avant, hein, j'ai l'impression. Même la semaine d'avant, ils commencent déjà à être plus.
La semaine d'avant, ils prennent 4-0 face à Shock et ils battent Charge. Alors, je dis pas que c'est pas important non plus, mais en fait, ce qui est visible, pour moi, le truc vraiment tangible, c'est ces deux victoires d'affilée qui les font passer
à
3-3. Et non, à 3-2 même. 3-2 puisque non, même 4-2. Bon, bref, 4-2 puisqu'il gagne un dernier match la semaine dernière. Bon, c'est tout ça pour dire que voilà, il y a une progression qui a été vue. Il y a des joueurs qui ont pris leurs responsabilités. J'aime bien cette expression qui veut rien dire. Et résultat, ils sont là et ils ont pas volé leur place non plus. Voilà, logo.
Oui, moi, c'est une équipe que je pense que c'est une de mes plus grosses satisfactions. Du stage 2, parce que on a senti une vraie montée en puissance, on a senti un cadre de jeu qui était beaucoup plus respecté, on a senti une équipe qui était beaucoup plus dans la communication, vraiment plus opérationnelle, et ça se ressent dans les résultats. Franchement, c'est une équipe que moi j'ai trouvé extrêmement posée, un peu comme les grosses équipes où tu sens que voilà, ils sont en maîtrise de leur sujet, ils savent ce qu'il faut faire et ils savent comment le faire. Et derrière, ça marche bien. Moi, j'ai été aussi très agréablement surpris par les deux Chinois, Guchué, bien sûr, et aussi Crystal, qui ont réussi à intégrer cet effectif et qui réussissent à jouer malgré le fait que tous leurs coéquipiers ne parlent pas la même langue puisqu'ils sont tous les autres sont sud-coréens. Donc voilà, je trouve que Guchué sur Reinhardt, il a vraiment énormément progressé. Et derrière, ils ont quand même Bébé qui est très très fort. Ils ont Aidika qui est quand même un des meilleurs Lucio, si ce n'est le meilleur Lucio depuis le début de la saison. Donc c'est un effectif qui, je trouve, monte en puissance, qui commence peut-être à montrer pourquoi on parlait tant d'eux en scrim avant. Ouais. Et c'est intéressant de les voir en playoff. Je pense qu'ils sont pas bons à prendre du tout en playoff.
Non, et puis on va revenir sur leur premier match. Mais effectivement, il y a moyen de moyenner, comme on dit grossièrement. On sait d'ailleurs si ça parle en coréen ou en chinois. J'ai l'impression que tout le monde est sûr de ça.
C'est une bonne question dont je n'ai pas la réponse.
Ça serait intéressant de savoir. J'imagine que demain, ils ne vont pas nous appeler pour nous dire. Mais voilà, est-ce que c'est les deux Chinois qui se sont mis au coréen ou est-ce que c'est leurs collègues qui se sont mis au chinois? Est-ce qu'ils ont décidé de l'anglais? Est-ce qu'ils ont trouvé un code? Ils gueulent un truc, ça veut dire quelque chose. Ça peut être sympa de voir ça. Effectivement, cette équipe des Sparks, c'est sympa de l'avoir enfin arrivé à un niveau... playoff, et t'as raison, et je suis d'accord avec toi, Logo, sur le fait que c'est une équipe posée et qui a par moment cette espèce de sentiment que t'as quand tu vois des Shocks ou des Titans ou des Excelsior, que quoi que tu fasses, de toute façon, là, sur cette carte, ils vont te battre. Et bah, c'est plaisant, attention, parce qu'ils ont encore, je trouve, une marge de progression, et Stage 3, ils peuvent être très casse-pieds. Et donc, bah voilà, ce match-là, on n'en a pas trop parlé, du coup, mais face au Seoul Dynasty, qu'est-ce qui vous diriez à manquer à Séoul pour tout simplement se qualifier?
Plus de rigueur, je dirais, parce que sur la carte de contrôle, c'était excessivement serré. Il y a eu si ma mémoire me fait pas défaut, c'était Li Jiang, et il y a eu le side sur les jardins qui a été absolument monstrueux en termes de bagarre et de
la bagarre.
Ouais, c'était une grande bagarre à 99-99 sur les jardins.
Un fight de quasiment 2 minutes 30, hein, enfin,
c'est ça.
Quelque chose de
c'était complètement insane, et les deux équipes, on les sentait complètement à bloc. Et c'est vrai que sur l'ensemble de Li Jiang, c'était vraiment très serré. Donc moi, je regarde, je suis devant le replay, je suis comme un dingue, je me dis, waouh, ça va être un match absolument incroyable. Et puis, deuxième map, les Sparks ont montré qu'ils pouvaient bien revenir dans la game. Et puis, il y a eu ces deux dernières maps où c'était littéralement le Gushu et Show, quoi. Il a tellement, tellement étalé de gens avec son Reinhardt, mais mon dieu, quoi. Ah, c'était vraiment du top level Gushu comme on en voulait depuis début, en fait.
Et sur Reinhardt,
exactement.
C'est des cartes Blizzard World, Rialto, où t'es obligé de jouer un Reinhardt, enfin, tu t'as aucun intérêt à jouer un Winston.
Non, la mode, c'est pas assez viable sur ce genre de map.
Il y a pas assez de verticalité, donc t'es obligé. Ouais.
Donc Reinhardt là-dessus est primordial, et Gushue du coup a pas le choix et a bien fait de pas avoir le choix et de prendre ce Reinhardt, puisqu'effectivement ça a étalé à tour de bras. Séoul du coup qui rate les playoffs, on peut juste en dire un minimo, mais c'est un peu une déception par rapport à ce qu'on avait vu dans le stage 1 quand même, où ils avaient réussi, je sais plus combien ils terminent, mais ils sont
7e, ils avaient fini au premier stage.
Ouais, c'est ça, mais alors attends, je vais juste m'en mettre là sous les yeux, paf, voilà. Ils jouent ce premier match où ils battent New York, et tout le monde se dit ça y est, les Séoul Dynasty sont de retour. Bon, c'était pas le cas.
Bah, je sais pas.
Moi, je suis pas aussi sévère parce que mine de rien, ils ont trouvé des nouveaux joueurs qui visiblement, je pense, doivent battre, notamment
Fischer.
Marvel qui bat Fischer. Après, bon, bah, c'est des jeunes joueurs qui viennent de petites écuries, voire même de scènes semi-pro. Donc, faut aussi qu'ils se mettent au diapason de la scène, choses comme ça. Et mine de rien, ils ont trouvé des trucs. On sait qu'ils ont du potentiel. Ils sont loin d'être à la rue quand même, parce qu'ils terminent pas loin des playoffs là. Fois d'avant, ils étaient en playoffs. Donc, ils sont quand même pour le moment en course, ne serait-ce que même pas les play-in, mais des playoffs directement. Et j'ai quand même le sentiment que voilà, c'est plutôt positif parce qu'il y a un bon renouvellement. Il faut qu'ils trouvent un style de jeu parce que en fonction des cartes et des équipes, on sent que soit ils sont très agressifs, soit ils sont très défensifs. Et il manque un peu d'identité, je trouve. Là, sur ce match-là, clairement, c'est ce qui leur a fait défaut. Ils ont énormément subi, ils ont pas pris d'initiative et ils auraient dû être, à mon sens, plus agressifs. Mais je pense que ça reste de bon augure. Hein. Certes, ils font pas les playoffs cette fois-ci, ils l'ont fait la fois d'avant, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant dans cette équipe.
On les enterre pas encore, du coup?
Non, pas encore.
Loin d'être enterré.
Non, clairement pas.
Je pense qu'on s'en méfie de plus en plus.
Aujourd'hui, là, je suis sur le classement de la Ligue de manière générale. Ils sont en play-in. Sachez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 équipes avec le même bilan en 7-7, à savoir Séoul, Atlanta, Toronto, Boston, Shanghai. Donc ils font partie de ce pack-là, et devant c'est Philly et Spark qui sont dans les premières places pour les play-in. Donc oui, effectivement, c'est pas du tout fini, il reste 20 matchs à jouer. Même plus 14, non, moins du coup.
14.
Waouh, les maths, à 11h du mat. Voilà, effectivement, bon, c'est un peu décevant, je pense, pour eux de rater les play-offs de cette manière. D'autant que c'était vraiment entre leurs mains. Maintenant, voilà, la suite promet tout de même. Messieurs, avant de refermer cette première page débrief du stage 1, 2, on fait un petit top 3, flop 3. Les équipes qui vous ont déçu, les équipes qui vous ont plu. Pas obligé de trop donner d'éléments d'explication. C'est plus un ressenti. Vous pouvez... Euh, vous lâcher, comme on dit. Et on commence, comme toujours, par le négatif dans ce podcast, puisqu'on aime bien finir par le positif. Tiens, Chabat, je te vois qui sont écrits, donc j'écoute tes trois équipes qui t'ont déçu.
Bon, la première, j'en ai parlé presque toutes les semaines où j'ai été là, mais...
C'est vrai.
Houston, évidemment, quand une de mes deux équipes de cœur décide de refuser complètement de jouer à Overwatch pendant un stage, ça me met hors de moi. Je vais pas en dire beaucoup plus, si ce n'est que même quand ils essayent de faire des compos où chacun est sur son poste, bah c'est de la merde. Voilà.
Ah, les mots sont lâchés. Excellent.
Ah non, mais j'en peux plus, quoi. Donc ça, je vais passer là-dessus parce que j'ai suffisamment déversé de sel à leur rencontre pendant ce stage. Ensuite, j'aurais dit les Guangzhou Charge. Parce qu'ils avaient, certes, c'était peut-être un calendrier entre guillemets un peu plus simple au stage 1, même s'ils se prenaient deux fois Vancouver. Mais je trouvais que pour une équipe qui était, on va dire, qui était envoyée avec préméditation par tout le monde dans le bottom 3 de la ligue, ils avaient fait un stage 1 de plutôt belle facture. Il y avait pas mal de promesses au niveau du roster. C'était assez enthousiasmant à regarder. C'était agressif. Enfin, c'était cool. Et en fait, ils ont coulé. Littéralement sur ce stage, et j'ai pas du tout reconnu l'équipe qui avait au stage 1, qui est passée à un cheveu d'être la première équipe chinoise en playoff. Donc on va dire sur le bulletin de notes, c'est en chute libre, il faut se ressaisir pour Guangzhou. Et puis bah, Toronto, en fait, c'est le même principe que Guangzhou. Je mets Toronto parce que ils ont fait un beau stage 1 en termes de résultats. Mais là, on l'avait vraiment dit, le calendrier les avait vraiment avantagés. Là, ce stage-ci, on les a pas, bah, ils ont pas vu le jour, en fait. Les victoires qu'ils font, dans mes souvenirs, c'est une contre Paris et l'autre, c'est contre une équipe de petit calibre aussi. Enfin, on n'a pas senti qu'il y avait de notion de progression. Enfin, donc Toronto, c'est un gros pouce vers le bas aussi.
Je suis d'accord avec toi, Jean, je jump dans le wagon. C'est Justice, l'autre victoire. Pour Toronto dans ma déception.
Oui, sans Stellar, c'est vrai.
Oui, voilà. Non, mais alors, évidemment, il y a ça qui explique, peut-être. Mais il y a quand même. On avait quand même vu des choses un peu plus tangibles, un peu plus pro, un peu plus posées en ce stage 1. Et là. Dès qu'il y a un truc qui les dépasse, tout part à volo. Ils savent plus comment ils s'appellent, ils savent plus jouer à Overwatch. Et je suis d'accord, moi je les ai aussi mis dans mes déceptions parce que tout ce que tu as dit est assez vrai. C'est vraiment la preuve que ce stage 1. En fait, je trouve surtout un aveu que ce stage 1 était vraiment plus facile et que du coup ça les arrangeait bien. Dès qu'il y a un peu de difficulté, ils n'arrivent pas à se mettre au niveau. Voilà. Toi, Logo, t'es flop 3, t'es 3 choqué déçu.
Bah alors, mon premier, c'est bien évidemment les Philadelphia Fusion. Ils ont eu un calendrier très difficile, quand même, faut pas l'oublier, parce qu'ils ont joué déjà deux fois New York, ils ont joué les Chocs. Je me demande s'ils ont pas joué Vancouver. Enfin, en tout cas, ils ont joué les gros calibres, ils les ont joués, donc ça aide pas. Mais mine de rien, c'est toujours frustrant de voir une équipe avec autant de talent. J'ai cru en début de stage qu'ils avaient résolu le problème de main tank et que Sado convenait. Force de constater que non, ce n'est pas le cas. Et c'est quand même un problème qu'a cette équipe depuis quasiment le début de la saison, hein. Enfin depuis le début de la ligue, puisque même Fraggy, c'était quand même pas folichon. C'est un peu frustrant de voir cette équipe, ok, qui est toujours aussi explosive, toujours capable de battre n'importe qui, mais qui a quand même des problèmes de consistance et qui n'a toujours pas réussi à les résoudre. En deuxième équipe, j'ai mis les Paris Eternals quand même, parce que certes, on sait que ils ont des objectifs qui sont un peu flous, qui veulent progresser, mais justement, moi, j'ai le sentiment que ils ont du mal à progresser, que ça manque de voilà, on voit pas une dynamique très positive dans cette équipe. Il y a toujours ces problèmes de communication. Encore une fois, la semaine dernière, on a vu des joueurs qui balançaient des ultis défensifs au même moment, des calls qui ont pas l'air d'être très respectés ou alors d'être très mal faits. Enfin voilà. L'avantage, le point positif, c'est qu'on a vu plein de joueurs différents jouer. Et ouais. On a un peu vu tout le monde. On est encore en expérimentation. Voilà, Nico sur Diva qui a pas forcément été exceptionnel depuis deux semaines. Voilà, c'est un petit peu compliqué pour cette équipe qui est un peu dans le dur. Et en fait, l'objectif du stage 2 qui était d'être un peu moins dans le flou et d'avoir vraiment une ligne directrice et de trouver une identité, ça marche pas forcément. C'est pas forcément rempli à mon sens. Ouais. Et en troisième équipe, je vais aller assez rapidement, c'est Houston Outlaws.
Évidemment.
Moi, c'est Ce que je comprends pas, c'est ok, vous avez des joueurs comme Lixor qui certainement vous coûtent très cher et qui sont très forts. À un moment donné, les gars, s'il convient pas dans la méta, faut pas le faire jouer, quoi. Faut pas forcer. Ils forcent des choix. Ils veulent absolument faire jouer certains joueurs qui, en fait, sont totalement irrelevant dans la méta. Et pourtant, ils essayent au chausse-pied, quoi. Et je comprends pas. Voilà.
Ouais, bah très bien. Je suis assez d'accord avec tout ça. Moi, mon choqué déçu. Donc j'ai dit déjà les Defiant. Il y a les Justice quand même, parce qu'en fait, moi, ce qui me déçoit là-dedans, c'est que premier stage, j'en avais fait venir un gros nom. Deuxième stage, on a fait venir un gros nom. Et finalement, c'est une victoire à chaque fois. Certes, le reste de l'effectif est un peu plus faible, mais ça veut dire que les ajouts que t'as fait, du coup, ne sont pas très n'apporte pas grand chose, quoi, dans la mesure où tu continues de perdre. Alors, oui, sur la fin du stage, on se dit, ah, peut-être, oui, ah, il gagne un match, oui, mais d'accord, c'est la fin du stage, j'avais plus qu'un match à jouer de toute façon, et c'était face à Boston qui avait rien à jouer. Donc,
Sleepy, il est fort, hein, il fait quand même, depuis qu'il est dans la.
Il sort d'une grande équipe.
Oui, bien, certes, mais bon, c'est pas sa provenance qui fait sa qualité, et sincèrement, il fait ce qu'il peut. Arc a jamais été référencé sur Lucio, donc bon, c'était un peu curieux de le prendre à ce moment-là, mais l'équipe dans l'ensemble ont quand même des trucs positifs, hein. Il y a une meilleure dynamique qu'avant. Alors,
oui, mais c'est pour ça que c'est décevant, c'est que au final, ça fait quand même qu'une seule victoire. C'est ça, moi, que je trouve décevant, et je suis d'accord avec toi. Je dis pas qu'ils sont aussi nuls que quand ils ont commencé. Oui, j'ai pas peur d'employer le terme nul, mais du coup, voilà, aujourd'hui, c'est deux victoires et 12 défaites, et pour une équipe qui avait peut-être pas les plus grosses attentes, mais dont on disait qu'il y a quand même un coach qui est bon, on peut dire comme on veut, mais qui est un peu pas un génie, mais qui voilà,
qui est référencé, en tout cas
référencé, très bon mot, qui est référencé avec deux joueurs de top calibre, avec Sleepy qui a un très bon ajout. Bah voilà, moi j'attends toujours que ça prenne, donc c'est pour ça que ça me déçoit. Et l'autre équipe, pareil, je suis un peu dur aussi, mais les Hunters m'ont déçu parce que ils partaient super bien dans ce stage. On s'est dit, ah, ça peut être la bonne surprise, comme quoi, vous voyez, jouer les picks que vous voulez, bah, ça paye, blabla. Bah, malheureusement, ils n'ont pas réussi à valider ce fait-là. Ils passent pas loin, hein, de mémoire, je vais vous redire tout de suite, mais c'est même la première équipe non qualifiée, puisque ils ont plus 1 en map average alors que Séoul est à 0. Bon, ça veut pas dire grand chose, hein, mais le fait est que voilà, c'est la 9e équipe, donc c'est la place de l'idiot, c'est dommage. Mais je suis déçu pour eux surtout, parce que ça aurait été sympa de voir cette équipe en playoff. Je suis curieux de voir ce qu'une équipe peut sortir face à Chengdu dans un match à élimination directe. Parce que les mecs en face doivent flipper de ouf, de se dire qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont faire n'importe quoi. Si on réagit pas bien, on est éliminé. Donc ça, moi, je trouverais ça intéressant à voir, et c'est pour ça que je suis un peu déçu. Voilà. Mais c'est pas contre eux, hein. Je les aime bien quand même. Allez, on passe au positif. La vie est belle. Shabba, t'es content?
Ah, mécontent. Alors, surprise, il n'y a pas Houston dans cette liste.
Wow.
Mécontent. J'en ai parlé tout à l'heure, donc je vais aller très très vite, mais Shanghai, parce que je suis vraiment super content de les voir là. Ouais. Après la, voilà, j'ai une équipe de cœur qui a été ce qu'elle a été. Et j'en ai une autre qui m'a régalé, qui est passée à pas grand chose d'un stage parfait, mais mes Gladiators sont de retour, et ça m'a fait très très plaisir, parce que je me suis un petit, le stage 1 m'a fait un petit peu mal, et là je suis ravi de voir mes lions violets sur le devant de la scène.
Il faut juste oublier le dernier match.
Voilà, le dernier match, tu fais un petit geste de la main, et ce match, ce n'est pas le match que vous recherchez. Et en dernier, j'ai mis Londres, parce que on a dit beaucoup de mal d'eux sur le stage 1, et que même si peut-être ils ont pas eu la plus féroce des oppositions, encore une fois, c'est un argument qu'on sort pour beaucoup d'équipes, mais c'est le cas, ils ont pas joué non plus, ils ont pas joué deux fois à Vancouver ou des trucs comme ça. Ils ont produit un très bon stage, et ils perdent contre eux, justement, des Chengdu Hunters que Kalti aimerait voir dans un match à coup près.
Bah ouais.
Mais ils ont fait un stage de très bonne facture et ils ont réussi à faire revenir Birdring dans le 6, alors qu'au stage 1 on disait que c'était un petit peu la source des problèmes d'avoir Birdring, alors que là sur la Brigitte il était plutôt efficace. Donc bien joué à eux. Au niveau du coaching staff, ils ont retrouvé une formule qui gagne et ils prouvent que la saison est loin d'être finie pour eux et qu'ils peuvent prétendre au très haut du classement. Car ils sont actuellement en global, ils sont quatrième quand même. Hein.
C'est vrai. Je vais le faire maintenant parce qu'en fait on en a deux en commun avec Shabba. Ah. En l'occurrence Gladiators et Londres. Gladiators très content aussi de voir que ça paye et de voir surtout que cet apport qu'on nous vendait comme l'un des plus gros en stage 1 qu'on a eu du mal à voir qu'est DK, explose complètement sur ce stage là et prouve qu'il est peut-être aujourd'hui un des meilleurs joueurs de l'Overwatch League, en tout cas à venir si c'est pas déjà un peu le cas. Donc Gladiators, content de les voir là. Londres aussi, parce que Londres c'est quand même les champions en titre, ne l'oublions pas. Le respect du haut champion, ça existe. Et non, en vrai, cet effectif-là, avec les joueurs qu'ils ont, avec l'expérience qu'ils ont, le stage 1 pour moi est une vraie anomalie. Donc je suis content de voir qu'ils retrouvent un peu d'allant et qu'ils retrouvent une place qui est plus proche de ce qu'ils sont sur le papier. Dernière équipe, c'est l'autre équipe de Los Angeles, c'est les Valiant, qui avait été très décevant en stage 1, même plus que ça, hein, on rappelle qu'ils ont fait 0 victoire.
Ridicule.
Et qui là, certes, vont pas jusqu'en playoff, mais chopent 3 victoires, refont rentrer que Star, ont l'air d'être un peu plus équilibrés. Karive fait des matchs incroyables sur Zenyatta, comme quoi c'est possible.
C'est marrant qu'il joue à son poste.
Non mais voilà, donc tout a l'air de se remettre un peu en place du côté des Valiant, et petit à petit, on pourrait retrouver une équipe qui était celle qui avait fait le bonheur des fans des Verts et Or dans le Stage 4. Donc moi, comme beaucoup de gens en France, j'étais fan de Valiant saison 1 parce qu'il y avait des Français. Je suis content de les voir reperformer. D'ailleurs, aujourd'hui, vous ne le savez pas, mais maintenant vous le savez, j'ai sur moi le t-shirt des Los Angeles Valiant pour ce podcast. Voilà pour mon top 3. Oui, mais c'était pas prémédité. Hein.
Je possède mon t-shirt des Gladiators pour ce podcast. Nous sommes donc ennemis jurés.
Voilà, je ne te parlerai plus jamais. Merci. D'ailleurs, je vais te déconnecter. Salut. Logo, ton top 3.
Moi, j'ai fait un top 3 avec des équipes qui n'étaient pas forcément. Bah, en tout cas, une qui n'est pas en playoff, mais sinon. Surtout des équipes qui ont, pour moi, ont des fortes identités, et c'est ça que j'aime, en fait, c'est de voir des équipes qui ont un style de jeu particulier. Pourquoi? Parce que, si t'as 0% de chance de gagner contre Vancouver ou les Chocs en GOAT contre GOAT et que t'as 1% de chance de les gagner avec ton style de jeu, vas-y, fais ça.
Let's go, ouais.
Beaucoup trop d'équipes essayent de jouer miroir sans avoir la moindre once de possibilité de gagner. Donc du coup, j'ai gardé les Chengdu Hunters, au contraire de toi, Alti, en top.
Très bien.
Parce que certes, ça marche pas tout le temps. Certes, on les a peut-être vus un peu trop beaux au début et derrière, il y avait des problèmes. Mais il faut quand même pas oublier que ça reste quand même une équipe qui est ultra agréable à avoir joué. Faut pas bouder notre plaisir. C'est pas toujours très efficace, mais au moins, tu vois, ils tentent des trucs. Et ils se disent justement, au lieu de jouer la GOAT et de savoir qu'on a aucune chance parce qu'on n'a pas les joueurs, on n'a pas la connaissance, on n'a pas le coaching staff, tout ça, on fait notre jeu et on se donne nos chances de gagner, quoi. Donc des fois ça passe, des fois ça passe pas, mais au moins c'est intéressant à voir. Dans la même optique, les Shanghai Dragons, pareil, un style de jeu très défini. Cette fois-ci ça passe pour eux. Pas sûr qu'ils soient plus forts que les Shanghai Hunters pour le coup, mais au moins il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à mettre sous la dent, à regarder, c'est très agréable. Et enfin j'ai mis les Dallas Fuel quand même. Faut pas oublier un truc, hein, c'est que depuis l'arrivée de Aero, qui est donc le coach qui est arrivé en stage 4,
ouais,
de la saison 1, cette équipe est largement dans le positif en bilan. En 3 stages, leur deuxième playoff de stage. La dernière fois qu'ils étaient en playoff de stage, ils sont allés en finale. Donc c'est quand même une équipe qui arrive avec un énorme coaching staff, un budget, et faut quand même pas oublier ça, hein, mais qui arrive à faire des trucs, qui a un style de jeu OG, qui est, on va dire, pas d'un point de vue talent pur, le meilleur main tank de la ligue, mais qui mine de rien fait des très belles perfs et arrive à sortir l'épingle du jeu assez fréquemment. Les Français et AKM, la résurrection d'AKM, c'est quand même encore une fois confirmé sur le stage 2, et c'est quand même quelque chose d'extra spectaculaire et pour nous Français très exaltant. Donc voilà, c'est une équipe que j'aime beaucoup regarder en ce moment, qui me plaît, que je suis très content de voir en playoff.
Eh ben ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que Dallas mérite ce qui leur arrive. On en a fini avec les débriefs de ce stage 1. De ce stage 1. On fait un petit. Oui, il va y arriver. Hein. Je vous promets, d'ici la fin du podcast, j'y arrive. On fait un petit flop top après ce jingle. Alors oui, là c'est un flop top un peu plus sur la semaine, pas forcément sur une équipe en particulier, sur ce qu'on veut. Flop de logo, tiens.
Mon flop, ça va être le match des Gladiators face à Boston, que j'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment pas bon du tout. L'équipe, très clairement en fait, le plan de jeu de Boston était très simple, c'était prendre la verticalité, jouer sur les hauteurs. Beaucoup de DPS qui vont justement qui sont mobiles, qui vont à hauteur, et on a vu une incapacité des Gladiators à réagir à ça, et j'ai trouvé ça très inquiétant pour les playoffs en fait. Et dans l'ensemble, la performance en soi était pas bonne, mais pour les playoffs j'ai trouvé ça très waouh. Moi je serais fan des Gladiators, je serais pas rassuré.
Ah bah tiens, les fans des Gladiators, qu'est-ce qu'ils ont comme flop?
Mon flop de la semaine, bah c'est New York, hein. New York qui arrive à choke encore contre à cette version là d'Atlanta Reign, qui pour ne m'impressionne absolument pas par rapport au stage 1, et qui deux fois dans le stage sont, enfin je sais pas, peut-être c'était un peu moins marqué que à leur première confrontation dans ce stage 2, mais bah, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils arrivent pas à trouver des réponses à une équipe qui propose rien de particulier en fait. Donc je sais pas, pour une équipe qui a le talent de New York Excelsior, je ne comprends pas comment on peut perdre ce genre de match en fait. Et deux fois avec des scénarios de match vraiment très similaires quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est bizarre, mais en même temps s'ils avaient réussi une première fois, tout le monde s'est dit ouais, ils y arriveront pas deux.
Nous les premiers,
je me souviens la semaine dernière, j'étais non, mais c'est pas possible. Bah force est de constater qu'avec New York, tout est possible.
Le choke est important, n'importe quand, n'importe où.
Ouais, avec New York, tout est possible. Ne craignez le choke. Moi, j'ai un flop dont vous avez un peu parlé, mais qui, moi, m'a carrément m'a un peu plus choqué sur cette dernière semaine. C'est Houston, quoi. Tu peux pas. Tu finis en roue libre totale, quoi. Tu te fais battre par Guangzhou Charge, tu te fais écraser 4-0 par Londres. Enfin. Déjà que le stage n'était pas réussi, mais là, cette fin-là, avec ces deux défaites, et du coup, tu finis à 0-7. Tu es les nouveaux Los Angeles Valiant. C'est terrible.
Ouais, donc, pas comme ça, Zidane, quoi.
Pas, ouais, pas après tout ce que tu as fait. Enfin, voilà. Donc, ouais, très choqué et très déçu par Houston sur cette fin de stage qui n'avait clairement plus envie de jouer dans ce stage-là et qui voulait passer à la suite. Bon, bah voilà, ça fait des victoires gratos pour les autres.
Je suis à peu près persuadé que t'as un membre des Houston Outlaws par soir qui font un relais pour aller sonner chez Pat Jeff pour dire hey, le patch avec pour les compos 5 DPS en mota, ça arrive quand tu vois.
Up chacal, up chacal, buff chacal.
Ils en peuvent plus de cette méta. Il
a déjà été buff chacal.
En plus, oui. Le top, la vie est belle. Shabba. Non, c'est Logo qui a commencé, pardon. Logo.
Oh, on va prendre s'en fout. Le top, moi, oui. C'est très simple, on a parlé tout à l'heure, c'est la bataille pour le point du jardin entre les Sparks et les Dynasties. Alors, le match n'a pas été au diapason comme ça pendant toute la rencontre, mais ce team fight était absolument fantastique. Si vous ne l'avez pas vu, il faut aller le voir. Une intensité rare. C'était très, très chouette à regarder.
Belle expression. Shabba, ton top.
Bah mon top, c'est un truc, je pensais pas, vu la tronche de leur saison, mettre ça dans un top un jour, mais la remontada de Washington contre les maîtres de la remontada. Parce que quand j'ai vu 2-0 à la mi-temps en faveur de Boston, je me suis dit, voilà, tranquillou, Boston fait son bonhomme de chemin, récupère une victoire de plus pour le classement final et tout.
Ah bah là, moi je suis comme toi, je suis allé dormir même, hein. Honnêtement, voilà. J'ai à 2-0, bah, j'ai dit bon, bah bonne nuit.
J'en étais pas à ce point-là, mais ça impliquait un épisode de série. Et quand je reviens, je vois quoi ? Les cinquièmes maps et Washington vient de prendre le premier side. Quoi ? Que se passe-t-il ? Et moi, ça m'a fait plaisir parce que je me dis peut-être que ce genre de match, comme on dit pour des sportifs ou des équipes, ça pourrait peut-être être l'acte fondateur de ces Washington Justice.
Le match référence.
On se rappelle que l'année dernière, Dallas a mis trois stages assez chauffés avant de jouer correctement au quatrième. Donc peut-être que Washington avait besoin de deux stages de chauffe et de
avec deux de coachs différents avant quand même. Faut pas oublier.
Oui, mais là du coup il y a deux joueurs qui sont venus renforcer. Sleepy qui apporte son expérience et toute la positivité qu'il avait du côté de San Francisco. Si on repasse sur une méta où on voit un peu plus de merci, je pense que Ark aura l'occasion d'apporter beaucoup à cette équipe. Donc, enfin, je trouve que Corée a été très bon sur le match en plus. Donc vraiment, moi ça m'a fait plaisir de voir Washington faire caler un petit reverse sweep comme ça au calme en fin de stage. Ils finissent sur une bonne note et je pense que ça peut leur donner beaucoup de pistes pour bien bosser entre les deux stages.
En plus à Boston qui est le maître du reverse sweep.
Tout à fait.
Mon top c'est juste après, c'est une image sympa. Juste après ce match, quand San Francisco venait s'installer sur la scène et que Washington quittait la scène, il y a eu un joli moment où tous les mecs des Chocs ont appelé Sleepy, donc leur ancien coéquipier, et voilà, il y a eu ce moment d'échange, de joie. Très clairement, les mecs des Chocs avaient l'air hyper contents pour Sleepy, et voilà, moi vous savez, j'aime bien ces petits moments de partage et de respect dans le sport et l'e-sport, donc ça m'a fait plaisir de voir ce petit moment. Voilà, pour les flop top, on passe tout de suite à vos questions. Est-ce que j'ai le jingle? Oui, il est là.
L'explication de pourquoi la cote est si forte? Eh bien, c'est très simple, Jean-Edouard.
Alors, c'est très simple, Jean-Edouard. Les questions des auditeurs, il y en a encore quelques-unes cette semaine. Merci à tous. Première de Zgastream. J'espère que ça se dit comme ça. Il est temps de poser une question, puisqu'il nous écoute chaque semaine, c'est vrai, merci à toi. Est-ce que vous pensez qu'avec le retour de Kusta et une Lagnop qui, sur le papier, fait rêver, les Valiant peuvent aller chercher une place en playoff en stage 3? Moi, je vais te dire très simplement oui. Voilà.
Moi, je vais dire très simplement non, c'est trop tôt. Moi, je pense qu'il faut un stage de plus.
Je vais faire le suisse et je vais dire, tant qu'on ne connaît pas la nouvelle méta, on ne va pas pouvoir savoir. Si ça continue comme ça, je pense que non.
Il s'implique pas. Non mais en fait, pourquoi je dis oui, déjà parce que j'aimerais bien, et surtout il y a quand même une progression. Non mais en fait, il y a surtout une progression qui se voit. Le fait que Kusta revienne ne change évidemment pas tout, mais encore une fois, moi je pense que c'est dans cette idée qu'il y a quelque chose qui est peut-être plus équilibré et plus posé dans cette équipe là. Donc pourquoi pas. Tiens, je suis bête, j'aurais dû préparer leur calendrier, mais je dois pouvoir le trouver en 5 secondes là sur Wikipédia. Donc les Valiants, ça joue Chengdu Hunters, ça joue Guangzhou Charge, ça joue Shanghai Dragons deux fois, tiens. Et ah ouais, après il y a les Titans, il y a les Spitfire et les Spark. Bon, ça va pas être facile cette affaire. Bon, ça va être plus difficile que ce que je pensais. Question de Trapstolfo. Justice et Reign 3-2 face à Boston et New York Excelsior. Est-ce que, malgré les faibles résultats de ces équipes sur le stage 2, les voir gagner des matchs qu'on ne pensait pas à leur hauteur ne nous rendrait pas plus heureux que de les voir en play-off? C'est une bonne question.
Moi, j'aime bien cette question, pour le coup. Parce que il faut pas forcément. Enfin, je pense que en soi, les playoffs sont des objectifs affichés et clairs pour pas mal d'équipes. Mais des équipes comme ça, comme Washington qui n'ont pas vraiment lancé leur saison, ou comme Atlanta qui ont subi une perte qui a mis un coup au moral et au niveau global de l'équipe, je pense que on pourrait considérer ça comme des petites victoires. Et je pense que ouais, le soulagement, il doit être réel pour Washington d'arriver à renverser la vapeur complètement. Et pour Atlanta, deux fois New York sur le stage, quand ils vont faire le point, ils vont se dire ouais, en fait, on a ce stage-là. En termes de résultats, c'est pas ouf, mais on a quand même des trucs qui peuvent nous aider pour la suite. Je pense que tu peux retirer que du positif de ce genre de victoire, je pense.
Logo, ton avis?
Moi, je suis un peu moins d'accord. J'ai quand même le sentiment, quand on regarde, par exemple, Dallas, qui était une équipe un peu en chantier la saison dernière jusqu'à le stage 4, justement, ils ont pu aborder la saison 2 en se disant, OK, on a fait une très bonne fin de saison. On a prouvé qu'on était capable d'être en playoff. Et donc, à partir de ce moment-là, tu peux construire. Sans être en playoff, t'es obligé de hard reboot, en fait. C'est ce qu'a fait les Dragons, en fait. Là, pour le coup, s'ils voulaient vraiment, ils se sont sentis obligés de dire, OK, on recommence à zéro. Et puis, il y a aussi un autre truc, c'est que, gagner contre une équipe qui peut-être elle en a rien à foutre du match parce qu'elle a déjà ses objectifs ou tout comme ça, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus trippant, quoi. Donc moi j'aurais tendance à dire que non, au moins l'avantage c'est que même si tu fais une saison de merde avec tes stage 4 et que t'es grillé, t'as plus aucune chance d'aller en playoff de fin de saison, au moins essaye de viser les playoffs de stage 4, t'auras un petit goût sucré à la fin de ta saison.
Ok, moi je suis, bah je suis un peu entre vous deux. C'est, je suis d'accord que c'est quand même important d'essayer d'aller chercher les playoffs. Maintenant, pour des équipes qui n'ont pas le niveau et qui, de toute façon, savent qu'ils n'y arriveront pas sur ce match-là, sur ce stage-là, bah c'est pas plus mal de réussir à taper, d'afficher un gros à ton tableau de chasse. C'est toujours ça de prix et ça peut aussi, voilà, compter comme des matchs référence pour la suite. Donc c'est pas à jeter non plus. Question suivante. Question suivante. Pourquoi je les ai plus? Oui, elles sont là. Alors HLTRA ou Ultra. Voilà, j'ai essayé de le dire. Vous pensez que les Washington Justice peuvent monter dans le ladder au fil de la saison? Ils ont vraiment de bons joueurs niveau individualité. Alors qu'est-ce qui bloque? On en a un peu parlé. Oui, ils sont capables. Qu'est-ce qui bloque à votre avis?
Communication, placement, gestion d'ulti, il y a encore des gros points noirs selon moi, mais après voilà, il y a Sleepy qui est arrivé, qui va apporter, je pense, beaucoup. Comme je disais tout à l'heure, peut-être un changement de méta pourrait leur faire du bien. Il faut voir si Wizard Young c'est que de l'orgueil ou pas. Hein. Encore une fois.
Logo, est-ce que je pense que ces joueurs sont est-ce que voilà, j'allais dire, est-ce que justement les Wizard Young est trop intelligent pour ses joueurs?
Ouf. Moi j'ai l'impression d'imaginer quand même que, alors déjà Wizard Young, oui bah certes c'est une histoire rigolote de voir le gars qui se prend pour Sherlock Holmes et qui voit tout meilleur que tout le monde, mais j'ai quand même l'impression que il leur manque un gros hard carry aujourd'hui sur Zarya. Corey il est quand même pas extraordinaire. Il leur manque un joueur qui est capable, les fusions ont ça quand même, c'est-à-dire que l'équipe est pas ultra forte sur Goat, mais quand Carpe a décidé d'être vénère, il peut quand même carry l'équipe, quoi, même sur Zarya. Ils ont pas ça. Et ça leur fait beaucoup de tort aujourd'hui, même s'ils ont des joueurs, entre guillemets, utilitaires, genre les healers, les flex tanks, des choses comme ça, qui sont plutôt corrects. Si t'as personne pour tuer des gens, dans un FPS, c'est quand même compliqué. Corey est très fort, mais plus sur des trucs de hitscan de classique, entre guillemets, et c'est pas le cas, c'est pas la méta actuellement, donc pour le moment ils ont pas ça, quoi, et ça leur manque énormément.
Peut-être encore un peu de transfert à faire. Les transferts, c'est jusqu'au stage 3 de mémoire qu'on peut les faire?
Ouais, ça a été défini, on pourra retrouver. Après, faut pas oublier un truc, hein, c'est que du Washington Justice, c'est le plus petit budget de la ligue. Ouais. Donc, ils ont une marge de manœuvre aussi depuis le début, hein, qui est plus petite que les autres. Donc, c'est normal aussi qu'à un moment donné, ils se retrouvent, qu'ils aient entre guillemets un déficit de talent au niveau de Vorbatchik. Et encore une fois, nous ne sommes personne. Mais c'est prévisible ce qui se passe au final pour cette équipe.
Je suis en train de regarder si j'arrive à trouver les dates. Bon, là, je les vois pas, mais tant pis. Je pense de mémoire que c'est jusqu'à la fin du stage 3. Du début du stage 3. Deux questions ensuite. Alors, pourquoi on va faire les deux ensemble? Vous allez voir, tout est bien fait dans cette émission. Puisqu'il y a une première question de Furio qui nous demande, à part San Francisco et Titans qui partent favoris pour le playoff du stage 2, qui pourrait être la grosse surprise et aller jusqu'au bout? Et une autre question de Sefi qui nous dit, quel est votre pronostic pour Dallas versus Vancouver? Les Fuel en sont-ils capables? Lui, beau joueur, dit 3-2 pour Fuel. Effectivement, c'est beaux joueurs. Ces deux questions-là, c'est très simple, on va y répondre tout de suite, puisque on va passer, regardez comme c'est bien fait, à la preview des playoffs après le jingle. Escort the payload. Alors, ces playoffs qui commencent donc dans la nuit de jeudi à vendredi. Petit point technique, on va vous donner tout de suite, que vous soyez pas surpris, les horaires, puisqu'il y a quelques tout petits changements par rapport à la saison régulière. En l'occurrence, il y a deux matchs, donc vendredi matin à 3h et 5h, qui seront Shanghai-San Francisco et Hangzhou-Londres. Samedi matin à 3h et 5h toujours, New York-Los Angeles-Dallas-Vancouver. Ensuite, vous avez une première... le samedi soir, vous avez les deux demi-finales à 21h et minuit. Donc, vous aurez la première à 21h. Alors ça, pour le coup, on ne sait pas quelle équipe joue quelle équipe à cet endroit-là. Mais première à 21h, deuxième à minuit. Et enfin, le dimanche, c'est à 19h la finale. Et il me semble que ce n'était pas ça, stage 1. De mémoire, c'était même 20h.
Ouais.
Voilà. Sympa de la part de Blizzard qui fait un horaire un peu plus euro-friendly, même si 21h on aurait survécu. Hein.
Je pense qu'il faut surtout un horaire beaucoup plus TV friendly en fait. Hein,
possible, possible. Mais bon, bah, on va pas se plaindre.
Hein. C'est, si on en profite, c'est tant mieux.
Voilà, donc ce sera pendant votre dîner, vous pourrez en profiter à fond. Donc dimanche 19h pour la finale, évidemment, vous aurez toutes les infos. On vous fera des petits, on essaiera de faire des petits live tweets sur le Twitter. On va essayer d'organiser ça. Donc les quarts de finale, puisque c'est les quatre affiches avec un S à 4, les quatre affiches qu'on connaît, on va les prendre dans l'ordre une par une. Le premier, c'est Shanghai Dragon contre San Francisco Shock. C'est marrant, c'est les deux dernières équipes qui se sont affrontées et Shanghai a pris un très sévère 4-0. La question elle est simple, est-ce que ils peuvent éviter la même issue?
Alors oui, mais si ils exécutent parfaitement au centimètre près du positionnement leur style de jeu. Ce qui est pas le cas, hein. Je disais tout à l'heure, Ding, il fait quand même, il arrive souvent à IEM toute l'équipe sauf le Lucio qui a le brochet. Ouais. Donc voilà, les matchs de playoff c'est particulier, les Shocks connaissent, les Dragons ne connaissent pas.
Certainement.
Et du coup, clairement, ils ont très très peu de chances de le faire, mais après ils ont un style de jeu un peu picotant, tu te prépares pas forcément quand t'as un style sans diva et avec une sombra, donc ils ont, je dirais, 1% de chance, mais bon, c'est déjà ça.
Tu leur donnes 1% aussi, Shabba?
Je sais pas combien de pourcents je leur donne, les statistiques comme ça, c'est pas totalement mon fort, mais moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme version de Ding? Parce que on a vu on voit souvent le Ding sur la Sombra, on voit souvent ce fameux Ding jouer Pharah dans les compos DPS, ou même des fois sur des espèces de goats étranges où on joue une Pharmacy au milieu. Et on le voit aussi sur du chacal, sur des phases défensives. Donc, est-ce qu'il y aurait un atout dans la manche de Ding qu'on n'a pas encore vu? Parce qu'on sait qu'il est très polyvalent. Et peut-être qu'ils vont nous sortir une petite spéciale. Peut-être qu'ils vont nous remettre Gegouri sur le terrain aussi. Parce que c'est vrai que quand il faut jouer de la diva, c'est quand même vachement mieux quand c'est quelqu'un qui s'y connaît qui la joue. Donc, je sais pas. En fait, je sais pas du tout quelle direction va prendre le jeu des Shanghai Dragons sur ce quart de finale, mais in fine, je pense que ça va être un 3-0 sec pour San Francisco parce que les Shocks seront passés en mode playoff, donc encore plus énervés qu'en saison régulière.
Oui, j'ai oublié de le rappeler, les quarts de finale, c'est des BO5, donc la première équipe qui remporte 3 cartes gagne et on arrête là. Les demi et la finale, c'est des BO7, donc la première équipe qui remporte 4 cartes. Voilà, oui, moi je suis globalement assez d'accord avec vous. San Francisco est largement favori. Shanghai peut-être créer la surprise sur une carte, mais je vois difficilement faire mieux. Surtout après San Francisco qui vient de lâcher 0 carte en saison régulière. Vendredi, donc à 5h du matin, Hangzhou Spark contre London Spitfire. C'est un peu plus. Relevé, je sais pas, mais en fait, ça, et c'est ce qu'on se disait un peu en préparant, ça va dépendre vachement de quel Londres on a, puisque depuis le début de l'année, on voit deux Londres qui fait n'importe quoi et qui essaye de diver et qui n'y arrive pas, et Londres qui retrouve les automatismes de la saison 1 et qui marche. Face à Hangzhou Spark, qui n'est pas forcément une équipe, que ce que j'allais dire, évidente à manœuvrer et qui est surtout bien campée sur sa goat, qu'est-ce que Londres va réussir à faire? C'est peut-être pas si évident que ça n'y paraît. Qu'est-ce que vous voyez dans ce match-là, messieurs?
Moi, je vois que sur le papier, je dirais que les Sparks sont favoris pour moi parce que sur la dynamique des dernières semaines, c'est eux qui montrent un cadre de jeu le plus posé, le plus sérieux et le plus... on va dire relevant par rapport à la méta. Après, les Hangzhou Spark, on a vu, ils ont eu beaucoup de mal, malgré leur effectif très fort, à se faire à la scène de l'Overwatch League et à être capable de pas choke sur scène et de pas avoir tout le côté émotionnel d'être devant un public, d'être en live, les affecter. Alors, j'ai un peu peur pour le côté playoff. D'avoir un match encore plus à enjeu, de peut-être avoir encore plus ses projecteurs braqués sur eux. S'ils ont eu du mal à la scène, je me demande s'ils vont pas avoir un peu le même effet pour le côté playoff. Mais moi, Londres, c'est pas une équipe qui m'a beaucoup séduite sur ce stage. Alors certes, ils gagnent, mais je trouve ça très brouillon en fait, comment ils jouent. Donc, si on s'en réfère uniquement au papier, je dirais Kangsu Spark est favori pour moi.
Ah ouais, d'accord, carrément. Et Shaba?
Moi, je pense que j'ai prono Londres, genre un 3-1, quelque chose comme ça. Mais parce que Londres, on le sait, sur des playoff runs, c'est une équipe qui est excessivement dangereuse. Mais je sais pas, je suis persuadé qu'il y aura un gros match en fait, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, les Sparks sont en train de trouver leur rythme, ils sont en train de trouver leur compo aussi, hein, parce que on l'a dit, mais Gouchoué joue tout le temps. Il y a plus de No Smite.
C'est intéressant comme transfert ça, No Smite. Hein. À mon avis, il a de la value.
Clairement, Bazzi ne joue plus du tout, alors qu'il y avait beaucoup de swaps sur la position de Brigitte en début de stage 1. Bazzi, Adora, Crystal jouaient très peu, alors que maintenant ils partagent vraiment le temps entre Crystal et Adora, et ça se passe plutôt bien, que ce soit l'un comme l'autre qui joue. Il y a des belles choses qui sont faites. Je pense qu'il y a des choix qui ont été arrêtés et qui ont fait du bien à l'équipe, et là on l'a vu, ils sont sur une dynamique très positive, donc je pense que ça va être un match vraiment explosif. J'espère que Londres va gagner juste pour des questions de prono, mais si Hangzhou gagne, ça ne me choquerait pas plus que ça.
Ouais, moi je vous trouve dur avec Londres qui quand même a confirmé, ou en tout cas a retrouvé un peu d'allant dans ce stage 2. Moi je les vois quand même réussir à battre cette équipe là, peut-être pas grâce à la goat contre goat, mais justement en reprouvant un peu ce style agressif qui faisait leur force saison 1. J'imagine qu'ils sont capables de les faire déjouer, et Spark, on l'a vu depuis le début de la saison, a pas toujours été hyper régulier. Londres non plus, hein, attention. Et les deux sont dans une très bonne dynamique. Mais ouais, moi, pour moi, l'expérience de Londres en playoff peut leur permettre de mieux saisir les enjeux de ce match-là. Et bon, je les vois favoris. Je ne serais pas étonné que Spark passe, hein, mais moi, je vois plutôt Londres. Voilà. Match suivant, donc le samedi à 3h du matin, et ça, c'est peut-être le match le plus attendu. New York Excelsior contre Los Angeles Gladiators. Est-ce que New York va choke? Est-ce que New York va gagner en playoff? C'est la question que tout le monde se pose. Oui, je vois la petite note que tu as mise sur le conducteur Stock Logo, qui est surpris qu'on dise est-ce que Londres va gagner pour la première fois en playoff. Évidemment que Londres a déjà gagné en playoff.
New York, oui.
Évidemment que New York a déjà... Vous voyez à quel point il m'obsède. évidemment que New York a déjà gagné en playoff. Mais bon, c'est quand même devenu la blague, le mème que New York choke. Bon, sur ce match-là... Il va pas falloir choke, parce qu'en face, il y a du monde. Il y a DK, il y a des Gladiators qui sont dans une forme qu'on a rarement connue chez eux. honnêtement, je trouve que c'est le match le plus équilibré sur le papier. Je sais pas ce que vous en pensez.
Ouais, c'est à peu près... moi, je pense que c'est le même genre d'homogénéité dans le niveau que Londres-Hangzhou. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que les Gladiators ont montré quelque chose, une très grosse faiblesse sur le dernier match, et j'en parlais tout à l'heure, c'est la gestion de la verticalité et quand l'adversaire prend la hauteur et prend la position, que ce soit par les airs ou juste par le niveau qui est un peu plus haut que pour l'une équipe que l'autre. C'est quand même un élément de réponse. Là, ils ont clairement été sans réponse du tout par rapport à ça contre Boston. Et je me demande si New York va être capable de jouer à cet avantage parce que, alors certes, ils ont un 6 qui est quand même bien défini, mais ils ont plein de joueurs qui sont capables de jouer d'autres postes et qui peuvent éventuellement... Ça serait pas étonné de voir de la Phara sortie à un moment donné pour jouer contre les Gladiators, choses comme ça. Après, en goat contre goat, ça se vaut. Et la question avec New York, c'est de pas savoir s'ils vont choke, mais de savoir quand est-ce qu'ils vont choke. Est-ce qu'ils vont choke là, le tour d'après, en finale, on sait pas trop. Mais, ouais. Mais voilà, quoi. Après, en goat contre goat, il y a moyen pour les Gladiators de passer parce que, à mon avis, Deke versus
Néné,
ça se vaut, quoi.
Ah oui, oh, oui.
Oui.
Bah, ouais. Moi, je suis assez d'accord. C'est un match qui va être équilibré sur le papier, qui va être équilibré dans les faits, mais... Je sais pas, il y a cette histoire de verticalité, mais New York sort d'une dernière, bon, les deux équipes sortent d'une dernière semaine décevante, voilà. Mais, moi, je peux pas dire que New York va gagner ce match juste parce que je suis trop fan des Gladiators. Voilà. C'était un avis totalement étayé, scientifiquement prouvé et tout ce qui va avec.
Bon, ce qu'on ne fait d'habitude pas dans ce podcast, mais là, on te l'autorise. à l'inverse, moi, je comprends pas que New York choque à chaque fois à ce point-là, et la raison me fait croire que, enfin ma raison, hein, qui ne vaut ce qu'elle vaut, me fait croire que peut-être enfin sur ce match-là, ils vont réussir à faire ce qu'ils font d'habitude en saison régulière, à être dominants, à l'emporter, à tenir leur rang, et merde, à passer un tour, quoi, c'est frustrant.
Après, bon, ils en passent des tours à chaque fois, hein. C'est bon, la dernière fois c'était une anomalie, mais à chaque fois ils passent des tours, ils ont même gagné deux fois en play-off, en playoff de stage l'année dernière, donc c'est quand même pas non plus à ce point-là. Et après, oui, je pense qu'on se réfugie trop dans la blague du choke. C'est peut-être pas que du choke, hein. C'est peut-être aussi qu'ils ont un style de jeu qui est stéréotypal depuis le début de la ligue. Même quand c'était des dives, ils étaient quand même très défensifs. Là, encore une fois, ils sont quand même sur un style très défensif. Et puis à un moment donné, bah, quand tu joues toujours le même style de jeu, bah, les équipes, elles trouvent des solutions, quoi. C'est normal aussi. Ça fait deux ans qu'ils ont un peu ce style de jeu-là. Bah, ça fait deux ans qu'ils sont au top, donc ils se font scouter de partout. Bah, peut-être aussi tout simplement que les très très fortes équipes, elles ont des plans de jeu qui sont définis, et comme ils sont capables d'exécuter parfaitement, bah, ça passe, quoi. Donc voilà, c'est peut-être juste aussi, on a peut-être juste pas, non pas juste à la choke, mais un choke, mais un déclin de cette équipe, comme on a connu le déclin de Ryu Jeong et de ses compères des Lunatic Eye quand ils sont arrivés en Overwatch avec les Seoul Dynasty, hein, tout simplement.
Effectivement, mais bon, je suis d'accord avec toi que la blague entre guillemets d'une choke est un peu galvaudée, parce que c'est vrai que c'est sur les derniers, juste sur les playoffs, enfin la finale de saison 1, playoff finale saison 1 et le stage 1 là, de la saison 2. Voilà, il faut aussi que New York arrive à casser cette image là, et je pense que c'est le bon moment. Dernier match, là en revanche c'est moins équilibré, même si bon, il y a une bonne équipe de Dallas, mais quand samedi à 5h du mat ils affronteront Vancouver Titans, je pense qu'on n'est pas beaucoup à donner cher de leur peau.
Voilà. Non.
Shabba.
En effet, bah, Dallas, moi, c'est bien pour eux qu'ils chopent les playoffs, ils ont fait un stage propre, mais enfin je sais pas, ils vont se prendre des bumpinettes dans tous les sens, et ça va être fin de l'histoire, 3-0, on passe à la suite, quoi. Je voudrais qu'il y ait de l'opposition, mais après, ouais, non, en fait, même pas. J'ai pas d'autre chose à dire sur ce match. Je pense juste que ça va être un, comment on dit en coréen déjà? Ah oui, haksal, un massacre.
Non, ouais. En fait, le truc, c'est que, Dallas, leur identité de jeu, ils l'ont construite cette saison sur la GOAT. Et ils font partie des équipes qui ont décidé de vraiment investir cette méta-là, de ce style de jeu, et d'essayer d'être le très puissant en GOAT. Ça leur fait du bien contre les équipes moyennes et médiocres. Par contre, mis à part les San Francisco Shock, personne ne peut rivaliser avec la GOAT en GOAT contre GOAT contre Vancouver. Donc, bah, c'est un peu le piège de Dallas. C'est qu'à un moment donné, bah, ils se retrouvent à pouvoir jouer que ça face à l'équipe qui est beaucoup trop forte en mirror match GOAT. Donc, bah, à mon avis, il y a zéro chance, ouais.
Oui, zéro chance. 0-5, allez, parce que tout est toujours possible. On l'a vu encore dans le sport et dans l'e-sport. Mais
le 1% de Shanghai, je le file aussi à Dallas, quoi.
Voilà, allez, parce que tout est toujours possible. Ça va être extrêmement difficile. On n'est pas obligé d'en faire des tonnes. Je pense que Vancouver peut aller au bout. Justement, en parlant d'aller au bout, messieurs, on s'est prêté chacun de notre côté au jeu du bracket. Et il n'y a pas de raison qu'on n'en dise pas un petit mot dans ce podcast. Est-ce que vous pouvez en quelques mots là nous dire qui vous voyez aller au bout et passer par quel chemin? Tiens,
oui,
Shabba commence. Ouais, vas-y.
On peut, bah, les gens ont vu déjà ce que j'en pensais, mais on va étayer un peu le propos.
Vas-y.
Moi, je vois encore Vancouver aller au bout, parce que j'ai l'impression qu'ils en ont encore sous la pédale, que c'est sûr, ils ont dû forcer un peu pour éteindre San Francisco Shock sur le stage précédent en finale, mais je pense que ça va être un petit peu le même style d'histoire, en fait. Sur ce stage-là, on va avoir des Vancouver Titans qui vont littéralement rouler sur les adversaires, avoir une finale serrée face à des San Francisco Shock qui sera encore de magnifiques deuxièmes, mais un petit peu cette place du con, parce que même s'il y a quand même des sous, hein, quand on est deuxième de stage, ben ça va peut-être être dur à encaisser pour cette équipe de San Francisco qui sort d'un Golden Stage, qui risque pour moi de mettre 3-0 et 4-0 à leurs opposants en quart et en demi. Donc je vois, ouais, Vancouver contre San Francisco en finale, c'est une certitude. Après, sur les demi-finales, il faudrait que je sois sûr de qui va jouer contre qui en termes de seeding, en fait. Mais les Gladiators, s'ils tombent soit contre, vu que moi je les vois battre New York, que ce soit contre Vancouver ou contre San Francisco, je pense qu'ils vont prendre le même tarif. Ils vont prendre un 4-0 ou un 4-1. Je les trouve, ils sont assez forts en GOATS, mais ça va manquer de quelque chose. Je pense que ça va manquer de maîtrise, de justesse peut-être, de précision, comme aiment le dire les casters dans certains moments clés. Et l'autre équipe qui va se qualifier en demi-finale, j'avais dit Londres. Et Londres, je vais rejoindre du coup ce qu'a dit Logo tout à l'heure. Londres, c'est encore trop brouillon pour que ça puisse vraiment titiller le très très gros de cette Overwatch League pour le moment.
Ok, ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Et de toute façon, il n'y a pas d'énormes surprises dans ton bracket, dans la mesure où c'est les...
J'ai fait un bracket raisonnable pour
une fois. C'est les têtes de série qui se qualifient à chaque fois. Donc c'est tout à fait envisageable. Toi, Logo, je ne connais pas ton bracket aujourd'hui. Tiens, quel est-il?
Je vais faire rapidement. Hein. Au niveau des finales, les Sharks ont porté face aux Dragons, bien évidemment. Je vois Dallas perdre face au Vancouver. J'ai failli me tromper dans l'ordre, donc c'est pour ça que j'ai eu peur. Je vais en Vancouver. Et après, les deux autres matchs un peu plus indécis, je vois donc les Sparks, comme vous l'avez peut-être deviné, gagner face à Londres. Et aussi, je vois New York l'emporter face aux Gladiators. C'est peut-être le match le plus indécis pour moi, parce que New York aussi, comme on disait, il y a peut-être la recette qui commence à être cliquée pour les battre. Mais voilà, donc ça donnerait les cartes finales San Francisco Sharks contre Hangzhou Spark.
Ouais.
Et pour moi, ce serait les Chocs qui l'emporteraient. Et après, le match sans attendu qui aurait enfin lieu entre les New York Excelsior et les Vancouver Titans.
C'est vrai.
Et je verrai donc les Vancouver Titans l'emporter parce que, encore une fois, c'est de la goat contre goat. Et quand il faut try hard, déjà quand il ne faut pas être sérieux, ils gagnent. Alors quand il faut être sérieux, ils gagnent encore plus. Et donc, ça sera un revival des Chocs contre les Vancouver Titans. Et je reverrai les Vancouver Titans l'emporter, faire le back-to-back. Parce que certes, ils ont perdu des maps, mais ils ont joué contre des équipes plus fortes. Et j'ai un peu peur, en fait, d'imaginer que les Chocs aient investi beaucoup trop de temps de préparation dans juste l'idée de faire le 28-0, de faire l'histoire. Et peut-être au détriment de passer un peu plus de temps anticiper les playoffs. Donc, okay. C'est une crainte qui est fondée sur rien, hein, mais que j'ai. Et pour ça, je me dis, les Titans peut-être vont gagner. Ça dit, je serais très content que les Chocs le gagnent. Ce serait la logique. Mais un peu comme les Warriors quand ils avaient battu en NBA le record de matchs gagnés en saison régulière. Derrière, ils avaient choke en playoff, en finale.
Tu sais que c'est un truc avéré, c'est que toutes les équipes des 4 sports majeurs américains qui ont eu le meilleur bilan en saison régulière n'ont pas gagné le titre majeur. C'est-à-dire que les Patriots en NFL, l'année où ils font 16-0, ils perdent en finale. Cette année, les Tampa Bay Lightning en NHL font la meilleure saison de l'histoire en saison régulière, sweep au premier tour.
Hein. Oh, dur.
C'est quand même hyper sévère. Les Warriors, tu l'as dit, l'année où ils font le record, ils perdent. Et je crois que c'est les Houston Astros qui avait eu le meilleur bilan en baseball et qui avait perdu en demi-finale. Enfin, comme quoi, la saison régulière, ça veut vraiment rien dire. Regardez quand même. Non, parce que du coup, les gens ils vont regarder que les playoffs.
Nate Nanzer n'approuve pas ce message.
Non, c'est sûr. Alors moi, je me suis un peu lâché dans mon bracket. Mais de toute façon, moi, j'aime bien faire genre, je sais tout avant tout le monde, parce que comme ça, si j'ai raison, je peux dire ah, je l'avais dit. Donc,
visitateur, les gens avaient déjà oublié de toute façon.
Exactement. Qu'est-ce que j'ai mis gagnant? Moi, j'ai mis San Francisco Shock, New York Excelsior, puisque je les vois les deux gagner, ce qui donnerait Londres et Vancouver dans l'autre. Je vois Londres affronter Vancouver. Et j'ai dit que New York battrait San Francisco. Paf! Ça, c'est fait. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en fait, le match New York-Vancouver, j'aimerais bien le voir en finale. Ça, ce serait un truc assez
cool. Ouais, en fait, il ne fait pas des pronos, il fait son petit menu, quoi, comme
ouais,
ça l'arrange.
C'est ça, ça marche. Non, mais en vrai...
Ça marche pas comme ça, monsieur le tyran.
Un 4-3 des Excelsior face au Choc, ce serait déjà un super match. Et puis surtout, c'est pas complètement impossible. New York, c'est quand même une super bonne équipe. Oui, les Chocs, ils sortent dans 28-0. Oui, les Chocs, ils ont des super bons joueurs et ils ont un collectif qui est hyper bien huilé. Mais New York Excelsior, il y a quand même il y a Jonak, voilà, pas besoin de plus d'arguments. Non, mais en vrai, il y a voilà, c'est ça me paraît les gens ont l'air surpris que je pense ça, mais on oublie que New York, c'est quand même un monstre. Donc voilà, je
Après, enfin, moi, je dis juste, ils ont encore le numéro de Baby B, les Chocs, je pense, dans leur répertoire. Il suffit juste de l'appeler. Ils disent qu'ils ont fait, puis voilà.
C'est quoi le secret face à New York? Dis-nous, Baby B. ouais, c'est possible. Non, mais voilà. Et du coup, c'est vrai que s'il y a une finale New York-Vancouver, pour le coup, je vois Vancouver l'emporter. De toute façon, on est d'accord tous les trois sur ce scénario-là. Voilà, logo, du coup, on publiera sans doute ton bracket à l'écrit dans la journée. On va d'abord publier ce podcast, puisqu'il est temps, Frodon, de terminer ce podcast. C'est la fin, déjà, mais ce n'est que le début, puisque les playoffs commencent, on vous l'a dit, dès ce vendredi à 3h du matin. Vous pourrez évidemment regarder le replay dans la journée. Messieurs, merci d'avoir été avec nous pour ce podcast, avec nous, puisque maintenant je parle de moi à la première personne du pluriel. merci d'avoir été... de bon matin ce mercredi dans ce podcast. Qu'est-ce qu'on dit d'habitude à la fin? J'ai plus l'habitude. Si, où est-ce qu'on peut nous retrouver? Bien sûr, toujours.
Partout.
La réponse
dans
partout.
Les campagnes, sur les réseaux sociaux.
On a dit qu'on arrêtait les références politiques dans ce podcast. Manifestement, Logo n'a pas eu le mémo.
Non, elle était trop bien celle-là.
Elle est bien trouvée, je te l'accorde. C'est de la poudre de perlimpinpin, Logo. Tout ça pour dire que on est évidemment sur Apple Podcast où il faut mettre 5 étoiles et une review. Il n'y en a pas cette semaine, on est un peu triste.
Et ça passe dans le podcast. Hein, on le
mais rappelle, on les lira. Donc mettez-les, allez cliquer sur le petit lien. At StockLogo sur Twitter pour Logo, at Chabaloutre pour Chaba, at RaoulVDG pour moi-même et at NerfZisCast pour le podcast. Vous avez l'habitude. Voilà, de toute façon, à chaque fois je dis trop de trucs. Donc cette semaine, je vais m'arrêter là. Merci encore à tous. On se retrouve sans doute mercredi matin plus tôt. La semaine prochaine, on va encore déterminer les modalités d'enregistrement avec les nouveaux horaires de tout le monde dans l'équipe, mais on va y arriver. On vous dit bonne semaine, très bon match de playoff à tous. Messieurs, un petit mot pour la fin.
Houston, vous faites de la merde.
Voilà. Bon,
bisous.
Bisous, ciao, à la semaine prochaine.
Allez, salut.
Yo. Heroes never die. Nerf this!